VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 20 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, question des évêques catholiques à la CENI sur la machine à voter.
En Guinée, un gendarme tué dans des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre dans la banlieue de Conakry.
Au Tchad, arrestation à N'Djamena d'un militant et porte-parole du mouvement citoyen IINA.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump favorable à un renforcement du contrôle des antécédents d'acheteurs d'armes à feu après le massacre de Parkland en Floride.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Processus électoral en République démocratique du Congo, les évêques catholiques demandent à la CENI de lever tout équivoque et suspicion autour de la machine à voter en permettant la certification par des experts nationaux et internationaux. Cette demande survient alors que le débat autour de la machine à voter continue malgré les assurances de la commission électorale. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'introduction de la machine à voter dans le système électoral congolais ne fait pas l'unanimité. Cela prédit des contestations des résultats des prochaines élections, a déclaré en conférence de presse le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Selon l'abbé Donatien Cholet, la certification de cette machine par des experts nationaux et internationaux participerait de la clarification du processus électoral. Pour rappel, certains pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient déjà exigé le test de cette machine avant son utilisation lors des élections. Réagissant sur Top Congo FM à cet appel des évêques catholiques, Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure, je cite, « La CENI bénéficie de l'appui massif en termes d'assistance électorale d'experts tant nationaux qu'internationaux. Nous avons la présence de 52 experts internationaux qui sont nos conseillers techniques et qui nous assistent. S'il y a d'autres experts qui vont encore s'ajouter, ils sont tous les bienvenus. » Fin de citation. Le président de la centrale électorale congolaise rappelle par ailleurs que l'utilisation de la machine à voter n'a rien à voir avec le vote électronique. Il est impossible aujourd'hui d'organiser un vote électronique en République démocratique du Congo. Le vote que nous proposons avec la machine, c'est un vote à papier. Ce n'est pas la machine qui fera le comptage des voix. Le comptage des voix va se faire manuellement comme cela a toujours été fait. Le seul résultat qui sera noté sur les procès-verbaux est le résultat dépouillé manuellement devant témoins dans tous les bureaux de vote, souligne Corneille Nanga. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, au Tchad, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé hier que deux humanitaires congolais ont été tués samedi dans la province agitée du Nord Kivu par des personnes armées non identifiées et un autre pris en otage. Les enlèvements, notamment d'étrangers et de Congolais membres d'organisations humanitaires, sont fréquents dans les territoires de Masisi, Lubero, Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu.
Nouvelle violence électorale en Guinée. Un gendarme a été tué hier dans des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre dans la banlieue de Conakry. Des protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février se poursuivent dans le pays, en même temps qu'une grève des enseignants. Le point avec Raïssa Girondin.
Le gendarme en question est mort dans des troubles à Koloma, dans la banlieue de Conakry, selon le porte-parole de la gendarmerie, le colonel Mamadou Alpha Barry. Les circonstances de sa mort restent floues. Par ailleurs, des milliers de jeunes ont manifesté hier à Conakry pour dénoncer l'indifférence du gouvernement et exiger le retour de leurs enseignants dans les salles de classe. Les enseignants sont en grève depuis le 12 février pour exiger une augmentation des salaires, de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement menace de couper les salaires des grévistes et de prendre des sanctions disciplinaires. La semaine dernière, deux jeunes ont été tués dans ces violences post-électorales qui ont déjà fait au moins 7 morts depuis les élections locales du 4 février, dont les résultats se font toujours attendre.
Au Sénégal, la défense du maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé pour détournement de fonds publics avec 7 de ses collaborateurs, a réclamé hier une annulation de la procédure et ça relaxe. Quant au parquet, il a requis une peine de 7 ans de prison contre M. Sall. Khalifa Sall, 62 ans, et ses coprévenus sont jugés pour le détournement présumé d'1,83 milliard de francs CFA, prélevé, selon l'accusation, pendant plusieurs années dans les caisses de la mairie. Pour Khalifa Sall, ce procès vise avant tout à l'empêcher de se présenter face à Macky Sall lors de la présidentielle de 2019.
Au Tchad, un militant et porte-parole du mouvement citoyen Iyina, qui appelle à manifester depuis fin janvier contre la malgouvernance, a été arrêté lundi à N'Djamena alors qu'il s'apprêtait à brûler un tas de pneus selon la police. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Alain Kembadida, c'est de lui qu'il s'agit, avait une bouteille d'essence à la main. Il s'apprêtait à brûler un tas de pneus. Au moment de passer à l'acte, un commandant de police qui passait l'a surpris. C'est ainsi qu'ont été décrites les circonstances de l'arrestation de l'activiste tchadien par le porte-parole de la police. Amnesty International sur place a jugé les raisons évoquées insuffisantes et demandé la libération immédiate ou l'inculpation formelle d'Alain Kembadida sur la base de charges reconnues par le droit international. Monsieur Kembadida est un porte-parole du mouvement citoyen IINA, qui signifie « on est fatigué » en arabe tchadien. Il fait partie des porte-paroles des organisations de la société civile qui appellent à manifester depuis fin janvier au Tchad contre l'austérité et la malgouvernance. En avril 2017, deux membres d'IINA, aujourd'hui en exil, avaient été arrêtés, torturés et détenus au secret sans charge, puis inculpés de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Ils avaient invité la population à exprimer son mécontentement face à la situation politique et économique lors d'une journée IINA le 10 avril, un an après la présidentielle ayant abouti à la réélection du président Idriss Déby.
En Afrique du Sud, l'un des frères de la famille Gupta a contesté le gel de ses biens à hauteur de 700 000 euros. Les frères Gupta sont au cœur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président Jacob Zuma. Le point avec Ekia Badou.
Selon Luvuyo Mfaku, porte-parole du parquet sud-africain, Atal Gupta a demandé à la justice de revoir sa décision de geler des biens d'une valeur de 700 000 euros. Il dément avoir profité d'un projet d'exploitation laitière qui ne s'est jamais réalisé dans la province du Free State. Le parquet doit faire connaître sa décision demain, mercredi. La semaine dernière, la police a perquisitionné la résidence des Gupta à Johannesburg. 8 personnes ont été arrêtées. La police a aussi émis un mandat d'arrêt contre un autre frère Gupta, Ajay, dans une affaire de détournement de fonds. Le ministre de la police, Fikile Mbalula, précise que 5 personnes sont recherchées dans un vaste scandale lié à la famille d'origine indienne. Selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les Gupta sont impliqués dans la gestion des affaires de l'État, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. La semaine dernière, le président Jacob Zuma, un ami des Gupta, a été forcé à la démission.
Et Jacob Zuma a été remplacé par Cyril Ramaphosa, qui veut faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump appuie les efforts pour renforcer le contrôle des antécédents d'acheteurs d'armes à feu après la fusillade de masse qui a fait 17 morts la semaine dernière dans un lycée de Parkland en Floride. Selon Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, M. Trump a discuté avec John Cornyn de la proposition de loi que ce sénateur républicain du Texas a coparrainé avec son collègue démocrate Chris Murphy du Connecticut. Un examen de ses antécédents n'a pas empêché Nicholas Cruz d'acheter l'arme qu'il a utilisée dans l'attaque de Parkland. Les parlementaires démocrates appellent souvent à des contrôles plus stricts, tandis que leur vis-à-vis républicain insiste sur le respect du deuxième amendement de la Constitution américaine qui protège le port d'armes.
Toujours aux États-Unis, le président Trump a de nouveau reproché à son prédécesseur Barack Obama d'avoir mal géré, selon lui, l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Il s'est demandé dans un tweet pourquoi M. Obama n'avait rien fait à ce sujet. M. Trump fait assez souvent ce genre de reproche à M. Barack Obama, tout en minorant l'importance de l'ingérence russe. À noter que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait auparavant démenti hier toute ingérence dans l'élection américaine, qualifiant ses allégations de sans fondement.
L'ONU a réclamé hier l'arrêt immédiat des bombardements de l'armée syrienne sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, où près de 80 civils, dont 20 enfants, ont été tués dans la journée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques 300 personnes ont également été blessées au lendemain de renforcement des positions du régime autour de l'enclave assiégée, qui laisse entrevoir une offensive terrestre.
Le président palestinien Mahmoud Abbas prononce aujourd'hui une rare allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à une reconnaissance de la Palestine comme État membre de l'organisation internationale et rejeter une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix. Selon des officiels palestiniens, Mahmoud Abbas va appeler à des négociations avec Israël dans un cadre élargi et pas sous l'égide principale des États-Unis. Et il va dénoncer à nouveau la décision américaine de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire va tenter de mobiliser 35 milliards de francs CFA en émettant des obligations sur le marché financier. Abidjan cherche à couvrir le budget 2018 estimé à plus de 6 700 milliards de francs CFA. Les titres émis seront remboursés dans 3 ans avec un taux d'intérêt de plus de 5%. Le gouvernement souhaite mobiliser cette année un total de 1 310 milliards de francs CFA pour financer la réalisation des grands projets inscrits dans le budget de l'État. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration éthiopien compte créer près de 5000 emplois pour les jeunes à Addis Abeba. Pour pallier la pénurie de l'emploi, l'association des propriétaires d'hôtels vise à construire la première académie publique privée d'hôtellerie et de tourisme pour former des professionnels capables de travailler même à l'étranger. Ce secteur est devenu le premier pourvoyeur d'emplois dans le pays après celui de l'agriculture. Plus de 886 800 touristes ont visité l'Éthiopie entre 2016 et 2017 et le gouvernement a enregistré plus de 3 milliards de dollars de revenus. Le taux d'inflation au Ghana a baissé de plus de 10% en janvier dernier. Ce niveau constitue le taux le plus bas enregistré dans le pays depuis 2013. L'Algérie a économisé plus de 5 milliards de dollars sur les 2 dernières années. Le système de licence d'importation mis en œuvre dans la politique nationale de régulation du commerce extérieur a favorisé cette performance sans toutefois aboutir aux résultats escomptés.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent aujourd'hui.
Un choc retient toutes les attentions, Chelsea FC Barcelone, un choc qui semble se résumer en un exploit ou la porte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Mission moins compliquée a priori par contre pour Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, qui reçoit le Besiktas de Ricardo Quaresma et de l'ancien madrilène Pepe.
L'arbitrage vidéo sera utilisé samedi à l'occasion de la Supercoupe de la CAF.
Tout à fait Idrissa, la Supercoupe de la CAF qui oppose les Marocains du Wydad Casablanca aux Congolais du TP Mazembe. L'assistance vidéo à l'arbitrage aurait dû être expérimentée lors du championnat d'Afrique des Nations 2018, mais l'expérience s'est transformée en une simple répétition générale. Les débuts de cet arbitrage en Bundesliga et en Serie A ont été marqués par quelques confusions et de longues interruptions du jeu liées justement à l'inexpérience des équipes arbitrales.
Paul Put a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe kényane.
Et oui, Idrissa, l'annonce a été faite par la Fédération kényane de football qui avance des raisons personnelles au technicien belge. 2 mois seulement après sa prise de fonction, âgé de 61 ans, Paul Put a amené le Kenya jusqu'à la victoire de la Coupe CECAFA des Nations en décembre. Le Kenya est actuellement 3e du groupe F dans les éliminatoires de la CAN 2019 et va rencontrer le Ghana leader de la poule le 7 septembre à Nairobi. Paul Put, il faut le signaler, a fait acte de candidature pour le poste de sélectionneur de la Guinée.
Arsenal a prolongé son contrat de sponsoring maillot avec Emirates.
Partenaire depuis 2006, la compagnie aérienne s'est engagée jusqu'à la fin de la saison 2023-2024 pour 40 millions de livres annuels. Ce nouvel accord est le 2e le plus important de Premier League pour un sponsor maillot. Il est toutefois encore loin de celui de Manchester United avec l'américain Chevrolet d'une valeur de 559 millions de dollars sur 7 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, la grève des enseignants entre dans sa deuxième semaine. Des élèves ont manifesté hier à Conakry pour exiger la reprise des cours, tandis que le gouvernement menace de couper les salaires des enseignants grévistes. Reportage de Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen parle de démarches, d'explications, des règles régissant le dialogue social, mais aussi de sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures. Dans une communication publiée dimanche, il appelle à la fin de la grève avant de menacer de ne pas payer le salaire de tout enseignant qui persiste à ne pas se rendre en classe. Toute tentative de reprise a été repoussée par des manifestants à Conakry. Le lycée Bouakar Biro est l'une des rares écoles où les cours ont été dispensés, mais après des heures, avec les défenseurs de la grève, Alexandre, élève de terminale.
Ceux qui n'étudient pas, parfois, ils se mettent contre nous, ils se fâchent, ils viennent pour nous perturber. On a sensibilisé nos camarades d'élèves, on leur a dit on sera confronté à tout problème. Donc attendez-vous à tout. On savait, quel que soit un jour, ils pouvaient y arriver. Ils sont venus, on les a repoussés, ils sont repartis. Et les cours ont continué.
C'est le proviseur du lycée qui a demandé aux élèves de venir suivre les cours. Alassane Bereté ne semble pas partager le mot d'ordre de grève.
S'ils ont des enfants en Hongrie, en Espagne, en Hollande, qui laissent les enfants étudier. Vous voyez ici des vieilles qui sortent le matin à 5h du matin. Il y a des vieux au champ à l'heure où je vous parle. Ce sont ces enfants à qui nous avons au lycée ici. Comment un seul individu est perturbé à venir et ces enfants-là.
Le gouvernement avait annoncé un dispositif de sécurisation des écoles et menacé de traduire devant la loi toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires. Dans plusieurs endroits de la capitale, des jeunes manifestants ont utilisé des pierres contre les éléments des forces de l'ordre. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, un gendarme a été tué. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Cameroun, trois partis d'opposition appellent au boycott des élections sénatoriales du 25 mars. Ils doutent de l'impartialité, selon eux, du corps électoral devant choisir les 70 sénateurs. D'autre part, de grandes manœuvres politiques sont déjà enregistrées autour de ce scrutin, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
L'Alliance des forces progressistes est l'une des premières formations politiques à avoir appelé au boycott des élections sénatoriales au Cameroun. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Nous avons un Sénat sortant qui a été élu partiellement, l'AFP et toutes les autres vraies forces du changement ne sauraient se reconnaître ou alors encourager les gens à y participer.
Pour le parti Univers, dont la masse militante est jeune, l'institution d'un Sénat est sans fondement au Cameroun. Prosper Nkumvondo, président du parti Univers.
Dans la politique du parti Univers, le Sénat en tant qu'institution parlementaire n'existe pas. Si nous arrivons d'accéder au pouvoir, le Sénat fait partie de ces institutions-là que nous allons faire disparaître.
Plus acerbe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'insurge contre une élection source de futurs conflits au Cameroun. Sostin Médard Lipote, secrétaire national à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Il fallait calmer les anglophones en organisant des élections claires et transparentes à la base pour qu'ils aient des nouveaux leaders. Dans le sud-ouest, comme dans le nord-ouest, des maires anglophones, notamment dans le sud-ouest, ont été attaqués des gueux de gouvernement, dont des maisons brûlées. Donc la crise anglophone n'est pas seulement une crise politique au sens général du terme, c'est aussi une crise de leadership. Comment les conseillers municipaux en fin de mandat peuvent-ils élire de nouveaux sénateurs? Et ça va aggraver la crise anglophone dans le sud-ouest.
Malgré cela, certaines formation politique de l'opposition entendent participer pour la première fois aux élections sénatoriales. À l'instar du FSNC, le parti n'a pourtant pas de conseillers municipaux parmi les électeurs. Issa Tirou Mabakari, président du FSNC.
Je n'ai pas suffisamment de grands électeurs. Vous savez, on dit que la seule bataille perdue est celle qui n'est pas livrée. Nous avons estimé indispensable d'être présent à cette compétition.
L'on évoque en coulisses une éventuelle alliance entre le parti au pouvoir et la formation politique du porte-parole du gouvernement camerounais. Par contre, au sein de l'UPC, le plus vieux parti politique du Cameroun, l'on refuse toute alliance avec le RDPC, parti au pouvoir, pour les élections sénatoriales. Jean-Jacques Biadeux, délégué aux questions électorales de l'UPC.
Nous avons un protocole d'alliance avec le RDPC, mais à certains moments, il faut réactualiser.
Donc pour ces sénatoriales, ça ne marche pas.
Nous irons à toutes les élections. D'ailleurs, le secrétaire général a dit, tant que le parti n'est pas fort, il ne voit pas pourquoi nous allons partir en victime résignée derrière un autre parti pour signer des alliances.
C'est la deuxième fois que les sénateurs camerounais seront élus 22 ans après la création du Sénat. Yaoundé, Emmanuel Jelounta, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'énième fusillade à l'école qui a relancé le sempiternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. Des élèves survivants mobilisent la rue. Le président Donald Trump se dit pour un renforcement des contrôles. Le drame de Floride est-il le drame de trop? La tragédie aura-t-elle un quelconque impact sur le culte des armes dans le pays? Pourra-t-elle briser la mainmise de la NRA, le puissant lobby pro-armes sur le monde politique américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Sorti la semaine dernière partout dans le monde, le film Black Panther, consacré au premier super-héros africain de l'univers Marvel, cartonne au box-office. Moins connu du grand public, d'autres super-héros africains. De Lomé, un reportage de Christelle Mensah. Récit Raissa Girondin.
Dans les locaux d'Agomédia, l'ambiance est propice à la création de nouveaux super-héros. Installée dans le quartier d'Agoé, à Lomé, la maison d'édition togolaise emploie au moins 6 personnes, précise Kossivi Assem, scénariste et cofondateur d'Agomédia.
Les super-héros africains d'Agomédia ont d'abord une valeur symbolique qui permet à l'enfant de s'identifier à quelque chose, lire des livres et ne pas pouvoir s'identifier à ce qu'on lit, c'est frustrant. Ensuite, tous nos super-héros ont un pan éducatif. Par exemple, à Congo, était un gars qui défend l'écologie. Dietrich fait connaître l'histoire du Togo et l'actualité politique. Super Albinos fait connaître la science aux enfants.
L'aventure naît avec deux amis, Kossivi Assem et Adrien Folinotron, qui fondent l'entreprise de conception de bandes dessinées et de dessins animés en 2007. Depuis quelques semaines, ils convertissent leurs bandes dessinées en livres numériques. Présents au Salon du Livre de Paris en mars, les auteurs d'Agomédia lanceront à cette occasion une nouvelle offre numérique. Les lecteurs pourront ainsi télécharger les histoires de ces super-héros sur le site des éditions Ago et sur les plateformes en ligne. Écoutons le responsable des livres numériques à Agomédia, Germain Kétévi.
C'est une chance d'avoir les livres, les contes de nos super-héros en poche, en version numérique. On peut la lire, la parcourir n'importe où on se trouve, où le besoin se fait sentir.
Dans cette équipe, jeune et dynamique, Adrien Folinotron est l'un des meneurs. C'est à ce directeur artistique et cofondateur d'Agomédia que l'on doit la plupart des dessins. Personnage important de l'histoire du Togo, le chasseur Dzitri, fondateur de la ville de Lomé, est devenu, derrière les traits d'Agomédia, un héros de bande dessinée doté de super pouvoirs.
J'ai voulu prendre un personnage dans lequel tout bon Togolais se retrouvait. Ça a créé un buzz total. Même les enfants de moins de 10 ans ont déjà entendu parler du super héros Dzitri.
Les aventures de Dzitri, d'Akongo, d'Amlima ou encore de Super Albinos, Agomédia a déjà écoulé plus de 11 000 exemplaires de BD. Dernier né des éditions Ingo, Scarf semble être un étudiant comme les autres, mais grâce à son écharpe magique aux couleurs du Togo, il aide la police à résoudre les crimes. Un futur succès, à n'en pas douter.
Ils ont attrapé les enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, poursuite des hommages au cinéaste Idrissa Ouédraogo, décédé dimanche à l'âge de 64 ans. Hier, la salle de concert de Senassa, Centre National des Spectacles et des Arts, a refusé du monde lors de sa soirée d'hommage à l'illustre défunt. Tous les arts y étaient représentés, outre les membres de sa famille et ses amis qui sont venus qui pour témoigner, qui pour écouter les témoignages. Toute la vie et la cinématographie de l'illustre disparu ont été passées en revue avec la révélation suivante. Idrissa Ouédraogo est le seul cinéaste burkinabé à figurer dans le dictionnaire Larousse. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Des témoignages, Pierre Okwamba, cinéaste burkinabé, l'a affirmé que Idrissa Ouédraogo n'est pas mort. Serait-il un pro-Birago Diop? Voici ce qu'il a dit.
Je ne suis pas Birago Diopien. Dans mon compte à moi, je trouve que Idrissa continue toujours d'influencer la productivité, la créativité et la cinématographie nationale et internationale. Pourquoi? Parce qu'il avait une démarche, il avait un ton, il avait une plume, il avait une mise en scène. Et ça, c'est une école. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas mort. Il a simplement changé de séquence, de changement de clap. On change de clap chaque fois que l'on tourne. Première séquence, deuxième séquence, troisième. Chaque fois qu'on change de séquence, on change de clap. Donc, ce n'est pas le clap de fin.
Justement, l'ambassadeur Philippe Savadogo a décrypté les titres des films de Idrissa Ouédraogo.
Tilaï, ce mot est rentré dans le vocabulaire national à partir de ce film. Mais Tilaï, ça voulait dire le courage. Ça voulait dire aussi ce qui est obligatoire. Et ça voulait aussi dire l'engagement. Lorsque nous passons au cri du cœur, c'est encore une dimension de conflit familial, mais aussi d'évocation de situations qui permettent de se rendre compte de cette pauvreté qui est un frein au développement. Le choix, on retrouve cette dimension de dualité, cette dimension de prise de position.
Le cinéma étant l'art qui regroupe plusieurs autres, l'artiste musicienne Hadji a témoigné sur celui qu'elle appelle papa.
Papa Idrissa, maestro, Dieu m'a fait grâce de l'avoir côtoyé, connu, et il m'a ouvert pas mal de portes. En 2000, quand je suis venue à Ouaga, par passion pour la musique, Dieu m'a permis de rencontrer le papa. Grâce à qui aujourd'hui, j'ai embrassé entièrement le métier de la musique.
Cette soirée hommage aura vu la participation du chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diabré.
C'était sans aucun doute l'un des hommes les plus doués de sa génération en la matière, et il le rendait bien, et en le faisant, il se faisait l'ambassadeur de la culture dans notre pays à travers le monde. Quand on revoit un peu sa filmographie, qui est une manière originale de présenter le vécu quotidien des gens sans phare, sans artifice, dans l'austérité qui caractérise un peu le combat que nos populations mènent là. Lui, il a amené une manière de faire le cinéma qui rompait un peu avec ce qu'on a connu dans la génération précédente, où il y avait beaucoup trop d'accent sur les aspects sociopolitiques.
C'est ce mardi, dans la soirée, et l'enterrement aura lieu à Ouagadougou, dans un scénario qui reprend les expressions d'un tournage de film avec demande de silence, demande de moteur et ça tourne. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ce soir dans RM Show à 20h, temps universel, au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. participer en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.